Alors, je vous invite donc à prendre place et on continue cette deuxième session. On a vu tout à l'heure, on vit dans un monde en déroute. Maintenant, la question, c'est comment tenir ? Quelle doit être notre attitude ? Comment nous positionner face à ce que nous voyons autour de nous, que nous n'approuvons pas nécessairement ou qui nous pose question ? Alors, il me semble que Paul va donner plusieurs conseils à Timothée, ou exhortations. Alors, Paul va encourager son protégé. Alors, quand je dis son protégé, ce n'est pas son chouchou. Mais je trouve, j'aime bien, dans le mentorat, on utilise cette expression. Son protégé, ça veut dire, on ne veut pas faire du cocooning. On ne veut pas le protéger du monde extérieur qui est méchant, etc. Ce n'est pas ça. Mais on veut vraiment le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse se développer. Paul, quand il écrit à Timothée, il lui dit « Que tes progrès soient évidents pour tous. » Ce n'est pas moi qui dois me promener avec une pancarte en disant « Regardez-moi, je suis en pleine progression spirituelle. » C'est les autres, quand ils t'observent, ils te voient dans l'église, ils disent « Mais dis donc, ce frère, cette sœur, on voit... » qu'il avance de plus en plus loin avec le Seigneur. Et ça fait plaisir à voir. Et on parlait de pour qui est-ce que je prie. J'espère que dans l'Église, vous voyez des frères, des sœurs qui peut-être sont à un moment difficile dans leur pèlerinage terrestre, une épreuve, une difficulté particulière ou simplement un besoin de croissance spirituelle. Et c'est ça, prier, avoir à cœur les autres. Parfois, quand on a des baptêmes dans nos églises, on pense au moins inconsciemment que le baptême, c'est le Graal, c'est la ligne d'arrivée. Maintenant, doucement le matin et pas trop vite le soir. Que nenni vous disais-je ? C'est pas du tout ça. Il faut vraiment encourager. Quelqu'un a dit que quand quelqu'un se convertit et se fait baptiser, il y a deux choses qui se passent. Un, les anges, ils débouchent une bouteille de champomie, ils font la fête, ils se réjouissent. Et deux, nous, on doit dire, eh bien, frère, sœur, le Seigneur t'a donné des dons, maintenant, on va t'aider à les découvrir, et puis il faut les mettre en œuvre, en action, pour le bien de la communauté. Ça, c'est une vision positive de croissance. Alors, Paul va dire, Timothée, pour pouvoir tenir, il faut te fortifier dans la grâce. C'est toute la question du ressourcement personnel. On va y revenir. Paul dit à Timothée, pour tenir dans ce monde, il faut avoir une vision de la reproduction spirituelle. Ça, c'est dynamique, ce n'est pas statique comme vision. Transmettre ce que tu as reçu. Les espèces du monde animal, ou même dans le monde végétal, on observe que la transmission, c'est une grande question d'actualité. Et la vie ne se termine pas normalement si on n'a pas transmis quelque chose. Alors, bien sûr, il peut y avoir des gens qui n'ont pas d'enfants, qui sont célibataires ou quoi, mais ils transmettent autre chose. Ils ont un patrimoine à léguer à la nouvelle génération d'une manière ou d'une autre. Paul va dire, Timothée, inspire-toi de modèles stimulants pour que tu sois un chrétien fidèle et approuvé de Dieu. Inspire-toi de modèles stimulants. Ne te trompe pas d'adresse. Paul va dire, Timothée, demeure attaché à la vérité de la parole. Alors, ça, ce sont les fondamentaux de la foi. À quoi est-ce qu'on reconnaît un évangélique ? Bon, les médias ne parlent plus trop des évangélistes, il y a du progrès, mais un chrétien évangélique, c'est quelqu'un, un, qui croit à l'inspiration, l'autorité des Écritures. La Bible est la parole de Dieu. Elle ne la contient pas, elle est la parole de Dieu. Deux, un évangélique, c'est quelqu'un qui croit que l'œuvre de Jésus à la croix, c'est crucial. C'est le cœur de la spiritualité apostolique et biblique authentique. Trois, un évangélique, c'est quelqu'un qui croit que l'Église est là une mission de proclamer la bonne nouvelle. tout comme le chrétien à titre individuel a la mission de témoigner. Et quatre, un évangélique, c'est quelqu'un qui promeut des valeurs éthiques compatibles avec l'évangile. C'est un critère, j'allais dire, d'authenticité. Et ce critère de demeurer attaché à la parole, il est absolument non négociable et fondamental. Paul va dire, Timothée, proclame la parole, rien que la parole et toute la parole. Et puis Timothée, accomplis fidèlement ton service, le ministère que Dieu t'a confié, la fidélité dans le service, l'obéissance. Voilà, grosso modo, résumé la manière dont il est possible de tenir dans ce monde en déroute. Alors, au verset 1 du chapitre 2, Paul dit, « Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. » Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Le maître mot, c'est « en Jésus-Christ ». John Stott a publié un livre, ou du moins, il y a eu un livre de John Stott qui a été traduit en français, qui est malheureusement épuisé, je crois, qui était paru au groupe missionnaire. En Christ, par Christ, avec Christ, c'est absolument fondamental. Alors, Paul nous dit que, finalement, on le sait, enfin, c'est pas Paul qui le dit, mais l'expérience nous montre que l'absence de ressourcement conduit à l'épuisement. La question du ressourcement spirituel, moi je crois, elle est fondamentale dans la vie chrétienne, à titre individuel, mais aussi au niveau communautaire. Et moi je trouve qu'une des questions dont on devrait parler plus souvent dans l'Église et dans les partages les uns avec les autres, c'est comment est-ce que tu vis ton temps spirituel avec Jésus chaque jour, et comment tu te ressources personnellement. Parce qu'on sait tous qu'il y a des jours sans et des jours avec, il y a des traversées du désert où on a le sentiment qu'on lit la Bible, mais on le fait plus par devoir que par nécessité. Mais en tout cas, moi je trouve qu'on devrait s'encourager sur un plan pratique. Et on observe que ce qui marche pendant un temps, peut-être qu'à une autre étape, il faudra trouver une autre méthode ou approche pour se ressourcer. Mais c'est fondamental. On entend aujourd'hui, on entend beaucoup parler du syndrome de l'épuisement, du burn-out, de la dépression, toutes ces choses qui sont assez connexes et liées les unes aux autres. Mais la question de fond, c'est on peut vivre sur ses acquis et sur ses ressources pendant un temps, mais à partir du moment où on n'a plus de réserve, eh bien, on ne peut plus donner ce qu'on n'a plus. Et moi, je trouve que parfois, le chrétien, il est comparable à une personne qui traverse le désert. À côté de lui, il y a une citerne, on va dire, de 5000 litres d'eau fraîche, et il est à côté, et il meurt de soif, parce que le problème, c'est comment puiser dans cette citerne. Et ça, c'est dramatique. Non au surmenage. On observe que Jésus a accompli beaucoup de choses. L'apôtre Jean dira, si on devait écrire et relater dans un livre tous les faits, gestes et paroles de Jésus, je ne pense pas que le monde pourrait contenir les ouvrages qu'on écrirait à ce sujet. Bien sûr, il n'y avait pas les ordinateurs avec les gigas de mémoire à l'époque. Mais chez Jésus, vous ne trouverez aucune trace de surmenage. Jésus ne dit jamais « je suis surbooké ». Je suis dépassé. Là, mon agenda, il est blindé. Parce que Jésus savait à quoi dire oui, il savait à quoi dire non. Quelqu'un a dit, savoir dire non à une opportunité pour pouvoir dire oui à une priorité, ça demande beaucoup de maturité. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Jésus, quand il est mort, il a pu dire « Tout est accompli ». Donc, et pourtant, il est mort jeune, on aurait pu penser, il aurait pu continuer son ministère. Hein. L'approvisionnement existe, mais le problème, c'est l'appropriation. Ce chrétien à côté d'une citerne de 5000 litres d'eau fraîche qui meurt de soif en plein désert. On voit des chrétiens qui butinent, qui papillonnent d'église en église ou de convention en convention à la recherche d'un plus, de quelque chose, d'un absolu qu'ils n'ont pas encore découvert. Alors que Paul dit aux Colossiens, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Et ne cherchez pas ailleurs. Notre problème, c'est le problème d'appropriation. Les ressources, elles existent. Et Paul dit, fortifie-toi dans la grâce. Et Paul sait très bien que si son protégé ne veille pas sur son ressourcement personnel, ben, il ne va pas tenir la route très longtemps. Il ne va pas tenir dans la durée. La deuxième exhortation, Timothée, ne romps pas la chaîne de transmission. Verset 2. L'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Donc c'est une vision dynamique, une vision de reproduction spirituelle. Et je sais que vous, dans les églises de l'AEI, qui avez été biberonnés au cours ITEA, vous avez été bien briefés avec ce beau verset de 2 Timothée 2, de la transmission. Un chrétien qui n'a pas la vision de partager l'Évangile, ben, à mon avis, il y a quelque chose qui manque. Et ce n'est pas un signe de bonne vitalité ou de bonne santé spirituelle. Bon, mais je sais que, Dieu soit béni, parmi vous, il y a des bouillants évangélistes avec les petits bleus. Et continuez, c'est une bonne école. Et Paul va dire, Timothée, pour tenir dans ce monde en déroute, il faut que tu focalises ton attention sur des personnes qui vont t'encourager, t'inspirer, te booster et qui vont te tirer vers le haut plutôt que vers le bas. Quelqu'un a dit on devrait faire un inventaire de nos relations personnelles. Si on prend une feuille de papier, on met plusieurs colonnes. Il y a des personnes qui m'apprécient et que j'apprécie parce qu'elles boostent mon ego. Mais oui, c'est toi le plus beau, c'est toi le plus grand, c'est toi le plus fort. Et ça, ça caresse dans le sens du poil et ça fait plaisir. Il y a des personnes alors qui ont l'esprit mal tourné et qui vont toujours trouver à redire et à critiquer. Et même sur le crâne des chauves, ils vont trouver des poux dans les cheveux. Ça arrive. Il y a des personnes qui vont avoir le don de vous encourager. Moi, je me souviens quand j'étais responsable d'OM, d'opération mobilisation, il y avait un frère qui me téléphonait parfois le matin, il me disait « J'ai deux bonnes nouvelles pour toi. » Ah, et bien la première, c'est que Jésus t'aime, et la deuxième, c'est « J'ai prié pour toi, tiens bon, et bye bye, et raccrochez. » Bon, à l'époque, on payait la communication à la longueur, c'est plus comme maintenant. Mais je veux dire, des coups de téléphone comme ça, waouh, c'est bon pour le moral, hein. Et franchement, c'est comme le sourire, hein, ça n'appauvrit nullement celui qui l'offre, ça enrichit tellement celui qui le reçoit. Et parfois, il y a des gens, il semble qu'ils ont peur d'être taxés sur les sourires s'ils en offrent un peu trop. Mais donc, Paul dit, inspire-toi des bons modèles. Et Paul va utiliser d'abord l'abnégation du soldat. Alors, Paul, il a passé pas mal de temps en prison, hein, et il a eu l'occasion d'observer la condition militaire. Et d'ailleurs, il va l'utiliser dans l'imagerie pour caractériser la vie du disciple. Mais Paul dit bien, un bon soldat, il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Hein. il se consacre à sa mission, il ne se pose pas de questions, il prend sur lui et puis il y va. Donc, savoir mourir à soi-même, savoir renoncer à son confort personnel et accepter de sortir de sa zone de confort. En somme, c'est ça que Paul dit, encourage Timothée. Et Paul dit, regarde des gens comme ça et tire-en profit, prends-en de la graine, ça va te faire du bien. Deuxièmement, pense aux sportifs de haut niveau qui s'imposent toutes sortes de restrictions, de disciplines personnelles. Il faut être prêt à payer le prix pour avoir la qualité que l'on souhaite obtenir. Il n'y a pas de secret. La discipline du sportif de haut niveau. Troisièmement, la persévérance du cultivateur. On n'a jamais vu un cultivateur labourer le lundi matin et puis arriver le lundi après-midi avec sa moissonneuse-batteuse. Et nous, parfois, on aimerait, ça fait penser aux chrétiens qui priaient, « Seigneur, donne-moi la patience tout de suite !» Ben non, c'est la question de la persévérance du cultivateur. Il faut accepter les délais, les saisons dans la vie. Pour ceux qui entrent dans, qui deviennent des seniors, ils savent bien qu'en plein hiver, on ne fait plus ce qu'on faisait dans la chaleur du plein été. Et il faut accepter qu'il y a des saisons qui tournent. Mais le cultivateur, il doit y croire et il doit persévérer. Et moi, je crois qu'on parle de la nécessité du témoignage, continuer de partager l'Évangile, même sans voir des résultats. Il y a une définition de l'évangélisation qui, moi, m'a fait beaucoup de bien, et je crois que c'était du temps de Agapé, ex-Campus pour Christ. Témoigner, c'est présenter la personne et l'œuvre de Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit en laissant à Dieu le soin des résultats. Moi, je trouve que ça, c'est une définition décomplexante de l'évangélisation. Je ne suis pas payé au résultat, et Dieu soit béni, l'efficacité de mon témoignage, ça ne dépend pas de ma méthode ou de mon... Témoigner, c'est présenter la personne et l'œuvre de Jésus dans la puissance du Saint-Esprit, en laissant à Dieu le soin des résultats. Et donc, Paul dit, Timothée, c'est un ministère au long cours dans lequel tu es impliqué et engagé. Et le défi, c'est de tenir dans la durée. Quatrièmement, au verset 8 du chapitre 2, Paul dit, « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts et descendant de David, conformément à l'Évangile. » Ça semble une évidence que Paul rappelle, « Souviens-toi de Jésus-Christ. » Mais si on réfléchit bien, alors en herméneutique, qui est la branche de la théologie qui étudie la manière dont on doit interpréter les textes bibliques, en herméneutique, on dit bien que l'Ancien Testament, il est christologique, c'est-à-dire que de nombreuses prophéties messianiques de l'Ancienne Alliance convergent et pointent vers Jésus. Et Jésus, par définition, doit être le centre et la clé pour comprendre tout l'Ancien Testament et toutes les prophéties, et il en est l'aboutissement. Alors Paul dit, souviens-toi de Jésus-Christ. On peut être tellement impliqué dans, entre guillemets, le ministère, qu'on en finit par oublier l'essentiel. Ce qui importe le plus, ce n'est pas mon service, mon ministère, mais c'est Jésus. Je me souviens, le directeur international d'OM nous disait, moi je ne suis pas marié avec OM, parce que aujourd'hui, je suis directeur d'OM, mais ça ne va pas durer indéfiniment. Et quand je ne serai plus directeur d'OM, qu'est-ce qui va me rester? Eh bien, c'est ma relation avec Jésus. C'est ça qui compte. Et trop souvent, alors peut-être l'ancienne génération, elle a commis l'erreur, trop souvent de confondre l'identité de la personne avec le rôle qu'elle joue. Je suis président de ceci, je suis président de cela. Et nous, on l'a vu dans l'œuvre de Dieu parfois. Et une fois qu'on n'a plus ce rôle, ben, on se raccroche aux branches. Et qu'est-ce qui me reste? Je suis quoi? Je suis quoi? Mais si, souviens-toi de Jésus-Christ, ma vie, mon ministère. Quand Paul dit « Christ est ma vie », Paul ne dit pas « prêcher l'Évangile, c'est ma vie ». Bien sûr que ça faisait partie de son paquet, du package. dans lequel il était embarqué. Mais Paul dit, Christ est ma vie. Vivre, c'est Christ. Ah ben là, des gens comme ça, je peux vous dire, ils sont pétillants et ils sont dangereux parce qu'ils sont, ils sont contagieux. Hein. Et franchement, c'est l'essentiel. L'exemple du Seigneur Jésus. Cinquièmement, suis mon exemple. Versets 9 et 10, c'est là où on voit Paul qui dit « C'est pour cet évangile que je souffre jusqu'à être enchaîné comme un criminel. La parole de Dieu n'est pas enchaînée pour autant. Je supporte donc patiemment toutes ces épreuves à cause de ceux que Dieu a choisis pour qu'eux aussi parviennent au salut qui est en Jésus-Christ et à la gloire éternelle qui l'accompagne. » Et c'est là où on voit la force de persuasion de l'apôtre, et c'est la plus belle des pédagogies, c'est ce que tu as vu chez moi, eh bien, reproduis-le dans ta vie personnelle. Et Paul va dire encore, au verset 15 du chapitre 2, il va parler de l'intégrité de l'artisan qui a fait ses preuves, qui a été éprouvé. Et le serviteur, il est mis à l'épreuve. Et il doit faire ses preuves. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon, c'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre, et c'est aux œuvres qu'on reconnaît le chrétien. Et le fidèle artisan au service de Dieu, il doit être intègre et il doit faire ses preuves. Et puis, dans les versets 20 à 26, Paul dresse le portrait d'un serviteur de Dieu fidèle. Et là, il sait très bien que Timothée, ben, c'est un jeune, hein, et probablement que ni vous ni moi, on lui aurait confié le ministère que Paul lui a confié. Et Timothée, malgré lui, j'allais dire à l'insu de son plein gré, il s'est retrouvé, bien malgré lui, embarqué dans une aventure qui l'a fait sortir de sa zone de confort et pour laquelle il n'aurait pas spontanément dit oui. Alors Paul va exhorter Timothée, il va lui dire, Timothée, en tant que chrétien fidèle et approuvé de Dieu, accepte de payer le prix pour obtenir la qualité. Et il dit que dans une maison, il y a des vases d'un usage noble et d'autres vases d'un usage ordinaire, quotidien, banal. Dans le contexte immédiat, Paul est en train de dire que les vases d'usage noble, ce sont les enseignants fidèles de la parole de Dieu. Le mobilier ou les articles de vaisselle de bas étage, là, il fait référence aux faux docteurs qui enseignent une partie de vérité, mais il y a du mélange et ce n'est pas la pureté de la parole de Dieu. Donc, Paul dit, Timothée, vise l'excellence. Ne te contente pas du service minimum. Vise l'excellence et sois intègre. Et il va le redire plus loin, prêche la parole, rien que la parole, toute la parole. C'est une question de déontologie, d'intégrité, pour obtenir l'approbation de Dieu, pour viser la qualité. Et Paul dit, le chrétien fidèle et approuvé, il s'abstient de toute souillure. Et il va lui dire, fuis les passions de la jeunesse. Et l'expérience montre, et les moralistes l'avaient bien remarqué, que les passions de la jeunesse qui n'ont pas été maîtrisées deviennent les vices de la vieillesse. Donc, ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas anodin. Et il dit, purifier ce vase est destiné à un usage noble. Et le défi, c'est d'être utile au maître, utile à son propriétaire, être utile. Et Paul précise, en étant disponible pour toute œuvre bonne. Et Paul va exhorter Timothée, il sait qu'un jeune, il est en proie à toutes sortes de sollicitations, de tentations, de passions. Il va lui dire, cultive la maîtrise de soi. La discipline personnelle, la maîtrise, ça c'est un gros mot dans notre culture occidentale, la maîtrise de soi. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui apprend à mettre de l'ordre dans ses priorités. Tout à l'heure, je disais, savoir dire non à une opportunité pour pouvoir dire oui à une priorité demande beaucoup de maturité. Un disciple de Jésus apprend à gérer ses émotions, ses pulsions, ses passions, ses envies, ses états d'âme, son budget, son temps, ses relations. Je veux dire, ça forme un tout, c'est tout un package. Et la maîtrise de soi, Dieu sait si elle est... c'est pas coté en bourse, mais ça vaut mieux que tout l'or en barre de la planète. Un chrétien fidèle et approuvé cible les bonnes priorités. Il y a des gens qui sont prêts à déclencher une guerre mondiale pour des vétilles, des broutilles, des peccadilles, des choses mais qui n'en valent pas la peine. Attendez, c'est une montagne qui accouche d'une souris. Il ne faut pas se tromper de cible et il faut garder le sens de l'essentiel et de la mesure. Ça me fait penser à quelqu'un qui, son truc pour évangéliser, c'était de dire « Je ne suis pas témoin de Jéhovah. » Et je vais vous dire 13 raisons pour lesquelles je ne suis pas témoin de Jéhovah. Bon, alors je veux bien, si vous vivez dans un milieu où il n'y a que les témoins de Jéhovah autour de vous, d'accord. Mais il y a quand même une façon un peu plus positive pour présenter le message de l'Évangile et revenir à l'essentiel, cibler les bonnes priorités. Et puis, rechercher la communion des frères et des sœurs. Au verset 22, Paul dit, « Fuis les passions qui peuvent assaillir un jeune homme, fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. » Vous savez, nous, dans nos églises évangéliques, on a trop souvent une vision pyramidale et hiérarchique de la vie chrétienne. Il y a Dieu et puis il y a moi, le chrétien. Et ça, trop souvent, ça nous mène à nous considérer comme étant des fils uniques du Père. Et on pense que le Seigneur, il n'a que mon dossier personnel à gérer. Et il me faut bien quelqu'un comme Dieu pour me suivre à la trace parce que j'ai besoin. Mais le Nouveau Testament nous donne une vision beaucoup plus horizontale et moins pyramidale. Exhortez-vous les uns les autres, portez les fardeaux les uns des autres, encouragez-vous les uns les autres. Alfred Kuhn a écrit un livre, Les uns les autres, où il relève plus de 60 verbes dans le Nouveau Testament, suivis de mutuellement les uns les autres. Et ça, ça plaide pour une vision horizontale de... l'enseignement, de l'encouragement, de l'exhortation dans l'Église, et tout ne vient pas nécessairement d'une manière verticale, que ce soit de la part de Dieu ou de la part des anciens. Bien sûr, les anciens, ils ont leur rôle à jouer, mais Dieu merci, chacun peut avoir un ministère. Et Paul dit dans ce verset 22, « Fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. » Et moi, là, je crois que ça nous montre une fois de plus, et chez Paul, c'est très prégnant, l'importance de la communauté et la place du chrétien dans la communauté. Nous, occidentaux, nous sommes beaucoup trop individualistes. Et nos amis africains et asiatiques sont souvent choqués par notre vision très étroite de notre petit égo ou du nombrilisme. Mais Paul, il a une vision, la communauté, l'Église et la croissance spirituelle de chaque membre, ce n'est pas seulement une affaire individuelle. Bien sûr, chacun a sa responsabilité, mais quelque part, la communauté en tant que corps, elle a un rôle à jouer. Et je crois que ça apparaît très clairement dans le Nouveau Testament. Et Paul dit, « Fais preuve de discernement », verset 23, « Refuse les spéculations absurdes, sans fondement, et tu sais qu'elles suscitent des querelles. » Et il y a des gens qui coupent les cheveux en quatre, et je vous l'ai dit, même sur le crâne des chauves, ils vont réussir à trouver des poux. Non, mais il faut savoir raison garder, et garder le sens des réalités et des proportions. Et franchement, parfois, ça ne vaut pas la peine de sortir l'artillerie lourde pour des questions complètement secondaires, hors sujet ou non essentielles. Et puis le chrétien fidèle et approuvé, il n'est pas animé d'un esprit de contestation. Verset 24. Il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles, qu'il se montre au contraire aimable envers tout le monde, capable d'enseigner et de supporter les difficultés. Il doit instruire avec douceur les contradicteurs. Qui sait si Dieu ne les amènera pas ainsi à changer d'attitude et pour connaître la vérité? Alors ils retrouveront leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les tient encore captifs et assujettis à sa volonté. J'ai entendu le professeur Henri Blocher, en commentant ce texte, un jour parler de ces théologiens libéraux, et l'expression qu'il avait utilisée, ils ont dit « Ils ont, ces théologiens libéraux, subi une cuite théologique ». Ce n'est pas avec l'alcool, hein, mais ils ont viré leur cutie et ils en sont arrivés à marcher à côté de leurs chaussures. Une cuite théologique. Mais finalement, l'amour et la persévérance du serviteur approuvé par le Seigneur, eh bien, ils croient qu'un théologien libéral qui a subi une cuite théologique, par la grâce de Dieu, il peut être amené à la repentance et revenir dans le chemin de la vérité. Et c'est ce que dit Paul là. Autrement dit, on ne doit pas coller une étiquette sur le front des gens, avoir des a priori ou des préjugés en disant « cette personne-là, elle est comme ça, elle restera comme ça, ce n'est pas possible qu'elle change ». Et Paul dit « Timothée, fais attention au regard que tu poses sur ceux qui ne sont pas tes amis ou qui ne sont pas de ton bord, fais preuve de patience, de douceur et sois animé de compassion envers les contradicteurs. » Donc, tenir dans un monde en déroute, il faut se ressourcer dans la grâce, veiller sur son ressourcement personnel, deuxièmement, avoir le souci de transmettre, troisièmement, avons-nous dit, focaliser sur des exemples stimulants, des modèles qui vont vous tirer vers le haut. Quatre, pour être un fidèle serviteur approuvé par Dieu. Voilà ce que Paul vient de nous dire. Et maintenant, Paul va... Alors, la question que moi je vous pose, et on pourra en discuter, est comment me ressourcer pour tenir ferme et rester fort? Qu'est-ce qui m'aide à assimiler des vitamines spirituelles qui m'aident à tenir la tête au-dessus de l'eau dans mon quotidien, que ce soit dans mon milieu professionnel ou là où je vis. À qui est-ce que je transmets ce que j'ai reçu? Est-ce que j'ai la passion de transmettre? Moi, je connais des gens qui ont 70, 75, 80 ans passés, qui font encore de l'évangélisation et qui ont à cœur encore d'accompagner des nouveaux convertis. La Bible dit que les saints, ils vont se reposer de leurs œuvres. Ben moi, j'en conclue que ceux qui n'ont pas beaucoup bossé sur la terre, ils ne vont pas beaucoup se reposer. Vous savez, moi, j'ai un petit QI très au ras des pâquerettes. Mais j'ai compris ça et je pense que ça vaut le coup de continuer de mouiller le maillot tant que on peut tenir encore debout et qu'on peut être utile. Quelles sont les personnes, les modèles qui m'inspirent? Moi, il y a quelques personnes comme ça et avec qui on peut avoir un échange. Et vous savez, le peu de paroles qui partagent avec vous, waouh, ça vous booste. Vous avez envie de prendre des notes. Et moi, je me souviens, en tant que jeune chrétien, au début, je passais une heure avec mon pasteur, je lui posais des questions, et après, je rentrais dans ma chambre et j'écrivais dans un carnet les paroles de sagesse que j'avais pu glaner. Et des années plus tard, parfois, je me reprenais à les relire, et j'étais étonné, je me disais, à cette époque-là, je n'étais pas complètement idiot, j'avais compris ça, hein, parce qu'on oublie des fois. Mais bon, il y a des personnes, des modèles qui nous inspirent et qui nous... Et je termine avec ce qui est absolument fondamental pour tenir la route dans ce monde en déroute, notre rapport à l'écriture. Ça, mes amis, c'est un combat. Autrefois, on disait de chaque génération. Autrefois, on disait que la langue française, elle évoluait tous les 50 ans. Aujourd'hui, hein, dans le dictionnaire, chaque année, il y a plein de mots nouveaux qui apparaissent. Et puis avec le langage SMS et tout ça, ça bouge beaucoup plus vite qu'on imagine. Et autrefois, on disait un congrès sur l'inhérence des Écritures tous les 15 ou 20 ans. C'est bon, ça suffit. C'est affolant de constater que même parmi le camp des évangéliques, il y a des gens qui lâchent de plus en plus de lest sur ces points fondamentaux qui font partie de l'ADN d'un chrétien évangéliquement correct. Chapitre 3, verset 14, « Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris. » Trop souvent, on pense que c'est nouveau, ça vient de sortir, comme disait Coluche. Et aujourd'hui, quand on vous dit c'est nouveau, ou alors quand on vous dit vu à la télé, alors là, c'est parole d'évangile et tout le monde va s'agenouiller. Ben non, Paul dit, Timothée, ne reste dans les clous. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu as été biberonné au béaba de l'évangile. Ne t'en détourne pas d'un pouce. Reste attaché à ce que tu as appris. À ce qu'on t'a enseigné depuis l'école du dimanche, pour ceux qui ont eu le privilège d'y assister. Reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction, la conviction du chrétien. Trop souvent, le fondement, il manque de stabilité, de fermeté. Et là, Paul dit, Timothée, reste convaincu, dur à cuire. Quelles sont les convictions pour lesquelles moi je serais prêt à mourir s'il le fallait? Tu sais de qui tu l'as appris et que depuis ton enfance tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. La vérité de la parole de Dieu, elle conduit à accepter l'Évangile, au salut. Verset 16, « Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu. » Et là, il y a, même dans nos milieux, et autrefois c'était du côté chez les libéraux, mais maintenant on sent que les lignes bougent, des évangéliques pur jus qui vont pouvoir prétendre vous dire « Mais moi quand j'ai la Bible, ce qui me parle, pour moi, c'est parole de Dieu. Si ça ne me parle pas, ça ne me concerne pas. » Ben, c'est cool, hein? Parce que finalement, on prend ce qui nous arrange et on laisse ce qui nous dérange. Ben, c'est comme ça qu'on commence sa carrière de faux prophète. Un hérétique, étymologiquement, c'est quelqu'un qui a fait un choix. Quelqu'un qui a choisi. Et nombre de sectes sont sorties des milieux fondamentalistes, historiquement parlant, avec des gens qui étaient enseignés dans l'Écriture, mais qui ont lâché du lest sur un point ou sur un autre, et puis qui ont fini par dévier et enseigner des doctrines erronées. Toute Écriture est inspirée de Dieu, du premier verset de la Genèse au dernier de l'Apocalypse, est utile pour enseigner, réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Et finalement, l'objet de la parole de Dieu, c'est d'amener l'auditeur à la maturité spirituelle. Il n'y a pas de maturité spirituelle sans attachement à la vérité de l'Écriture. Et là, c'est un des points sur lesquels nous, les évangéliques, nous ne devons pas accepter de concessions ou faire de compromis. Il est écrit à la loi et au témoignage. C'est vraiment les points fondamentaux. Et Paul exhorte de toute sa force Timothée à rester ferme. Et puis Paul dit, alors dans les versets, chapitre 4, versets 1 et 5, il parle du prédicateur. Mais tout le monde n'est pas appelé à prêcher du haut de l'estrade. Mais en tant que témoin de Jésus, on envoie un message, on est un prédicateur et on peut transmettre la bonne nouvelle. Et ce n'est pas seulement les personnes consacrées à ce ministère. Donc Paul dit, en vertu de la solennité du jugement de Dieu, devant Dieu et devant Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, tu es redevable à ce Dieu et tu dois prêcher l'Évangile. Prêche la parole, rien que la parole, toute la parole. Vous savez, on entend beaucoup de messages et sur Internet comme dans les églises. Ben, y a des gens qui se prêchent eux-mêmes, ils courent pour leur écurie, pour leur paroisse, et ils se prêchent eux-mêmes, et ils se font plaisir, et ils parlent beaucoup d'eux-mêmes. Ce n'est pas ça le sujet. Moi, j'ai vu dans une église une fois, sur la chaire, il y avait un écriteau en gros, « Nous voulons voir Jésus ». Un prédicateur, sa finalité, c'est d'être un instrument, une caisse de résonance, un haut-parleur, mais c'est la voix de Dieu qu'on doit entendre. Et c'est la personne de Jésus qui doit être mise en avant. Prêche la parole. Et Paul dit, le prédicateur ou le témoin fidèle conduit son auditoire à la maturité. Et il dit bien qu'au verset 3 et 4, il sait que les auditeurs préfèrent un mensonge qui les arrange à une vérité qui les dérange. Quand on prêche l'Évangile, on doit se poser la question. Est-ce que je prêche pour ma paroisse ou est-ce que je ne suis qu'un ambassadeur, un envoyé de celui qui m'a qualifié et qui m'a confié une mission? Et aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui utilisent l'Église de Jésus-Christ comme caisse de résonance personnelle pour se mettre en avant, pour bâtir leur empire personnel et tenir sous emprise et sous la parole d'un homme, si charismatique puisse-t-il être, un auditoire. Et s'il n'est pas cet auditoire ancré dans la parole, eh bien, il va prendre pour du bon pain tout ce qui est présenté. Notre but, ce n'est pas de faire grimper la courbe de l'audimat, ce n'est pas de caresser dans le sens du poil. Ça, c'est le job des faux prophètes. Les faux prophètes, par définition, ils caressent dans le sens du poil. Mais oui, tout le monde, il est beau, il est gentil, on ira tous au paradis. C'est bien plus populaire que de prêcher la perdition éternelle pour les impénitents. Et puis, le prédicateur ou le témoin fidèle, il fait preuve d'équilibre, d'être sobre. Et il a l'aptitude à endurer la souffrance. Et Paul insiste beaucoup sur la souffrance et le prix à payer. Et il va dire, remplis fidèlement ton rôle de témoin. Donc, être attaché à la vérité de la parole, c'est être convaincu de la gravité du péché. Je reviens à ce que j'ai dit en introduction. Est-ce que je suis convaincu que le problème numéro un du point de vue de Dieu, c'est le cœur de l'être humain qui est désespérément tordu, corrompu, perdu? Parce que si je ne suis pas d'accord sur ce diagnostic, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Si je suis convaincu que c'est le problème numéro un, je dois être convaincu des implications pratiques de la Bible, parole inspirée de Dieu, qui est l'instrument que Dieu choisit pour amener au salut les perdus. Et puis, je serai convaincu alors de la puissance et de la pertinence du message de l'Évangile. Il n'y a pas d'autre, ne cherchez pas ailleurs, tout est dans la parole. Et être attaché à la vérité de la parole, c'est être convaincu de la nécessité d'être un témoin actif pour Christ. Voilà, je termine avec ces quelques questions qu'on va voir dans les petits groupes de discussion. Il nous reste un quart d'heure avant le repas, c'est court. Suis-je convaincu de la gravité du péché ? Suis-je convaincu de la pertinence et de la puissance du message de l'Évangile ? Suis-je conscient de la dangerosité des faux docteurs ou des faux prophètes ? Et Paul en a beaucoup parlé. Et suis-je fidèle dans le service que le Seigneur m'a confié ? Donc, on retrouve les mêmes salles que tout à l'heure, c'est ça ?